vous écoutez Historama, l'émission historique de Radio Judaïka, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 21 octobre 1805, la bataille de Trafalgar. Trafalgar, un mythe, la place la plus célèbre de Londres, mais aussi et avant tout, la grande défaite navale de Napoléon Ier, le 21 octobre 1805. Une bataille qui marque la fin d'un monde, celui des grands vaisseaux de bois et de voile. Le 19e siècle sera celui de l'acier, de la vapeur, de la révolution industrielle. Trafalgar, une suite d'événements héroïques, un combat de géants dans un déluge de fer et de sang. C'est une tragédie, avec la mort dramatique durant le combat de l'amiral anglais Horatio Nelson, puis le suicide de son rival malheureux, l'amiral français Pierre de Villeneuve. Enfin, le décès, 10 ans plus tard, d'Emma Hamilton, épouse de l'ambassadeur d'Angleterre à Naples, le grand amour de Nelson. Les marins français portent une cravate noire pour commémorer ce désastre. Trafalgar se situe au sud-ouest de la côte espagnole, entre Cadix et le détroit de Gibraltar. C'est le passage obligé de tous les navires allant de l'Atlantique à la Méditerranée. Un véritable verrou. En mai 1803, l'Angleterre rompt unilatéralement la paix d'Amiens, conclue avec la France le 25 mars 1802. Elle saisit les navires français établis dans ses ports et bloque Brest, Rochefort et Toulon. Napoléon ne réagit pas immédiatement aux provocations britanniques en raison de la précarité de sa marine. Une majeure partie des officiers a en effet émigré. Quelques navires sont passés à l'ennemi. Plusieurs ont été coulés. Tous manquent d'entretien. En 1803, la France n'a qu'une cinquantaine de vaisseaux en piteux état à opposer aux 150 bâtiments de la flotte anglaise. Cependant, Bonaparte entend réagir à la provocation britannique. Il envisage de débarquer sur les côtes anglaises entre Hastings et Douvres, puis de marcher sur Londres. Pour ce faire, 2500 chalands manœuvrés à la voile et à la rame sont construits sur le littoral du Nord, entre Le Havre et Anvers. Chacune de ces embarcations transporte une centaine de soldats et une vingtaine de chevaux ou quelques pièces d'artillerie avec leurs munitions. Ce projet, appelé le Grand Dessein, est dirigé par l'amiral Villeneuve. L'empereur se rend plusieurs fois en inspection sur la côte de Boulogne et participe à des exercices d'embarquement et de débarquement. La première difficulté consiste à sortir les navires français bloqués par la marine britannique. À Brest, les tentatives échouent. À Toulon, le 30 mars 1805, Villeneuve profite du Mistral pour appareiller en trompant la vigilance de Nelson qui se lance le lendemain à la poursuite des Français vers la Méditerranée orientale, pensant qu'il se dirige en direction de l'Égypte. Dans un premier temps, Villeneuve rallie Cadix et fusionne avec la flotte espagnole de l'amiral Federico de Graniva. Pour tromper Nelson, il prend ensuite la route des Antilles, puis les équipages britanniques le rattrapent aisément. Après quelques escarmouches dans les îles anglaises des Antilles, Villeneuve met le cap sur la Manche, espérant trouver des renforts. Le destin en décide autrement. Les vaisseaux français sont toujours enfermés dans Brest. De plus, l'Autriche attaque la France. C'est la fin du grand dessein. L'empereur lève le camp de Boulogne et envoie la grande armée en direction de Vienne. La flotte de Villeneuve reçoit l'ordre de retourner en Méditerranée. L'Espagne étant alliée de la France, elle fait escale à Cadix pour embarquer des vivres. Nelson décide alors de se poster au large de Trafalgar, où il est certain de rencontrer la flotte franco-espagnole. Napoléon demande à Villeneuve de ne pas affronter une force anglaise supérieure. L'amiral, jusque-là très prudent, appareille de Cadix le 19 octobre 1805. Il croit la météo favorable. Elle est en fait mauvaise. Il pense la flotte britannique limitée à 18 vaisseaux. Ils sont en réalité 27, souvent à trois ponts, plus rapides et mieux armés que les navires français. La bataille débute le 21 octobre, peu après 13 heures. Nelson dispose des bâtiments, ses bâtiments sur deux colonnes perpendiculaires à la ligne franco-espagnole. Chaque colonne coupe la file et se resserre sur les navires ennemis pris en étau. Assaillis de tous côtés, dématés et balayés par la canonnade qui cause des centaines de morts et de blessés. Le combat est terriblement meurtrier. Nelson, à bord du Victory, est touché par un tir de pistolet. Le récit de son agonie contribue à forger sa légende. Colonne vertébrale brisée, entièrement paralysée, membres glacés, Nelson, qui a déjà perdu un œil et un bras, refuse obstinément l'intervention d'un chirurgien. Il s'informe du déroulement de l'affrontement. Il donne des ordres et charge le vice-amiral Cuthbert Collingwood de commander la flotte. À l'issue de 5 heures de combat, la victoire anglaise est totale. La flotte française perd la moitié de ses bâtiments. Les Britanniques comptent moins de 2000 morts et blessés, contre 5000 du côté français et 1500 pour les Espagnols. Nelson rend l'âme vers 16 heures, au moment où la bataille touche à sa fin. Son corps est placé dans un tonneau de rhum et le Victory est remorqué vers Londres, où des funérailles nationales sont célébrées le 5 janvier 1806. Villeneuve, fait prisonnier, assiste à la cérémonie funèbre. Il est ensuite libéré sous le serment de ne jamais reprendre de service contre l'Angleterre. Il est conduit à Morlaix, d'où il prend le chemin de Paris pour fournir des explications à l'empereur. Dans une auberge proche de Rennes, il s'enferme dans sa chambre et se transperce le cœur avec un couteau. Quelques semaines plus tard, l'amiral Gravina décède à Cadix des suites de ses blessures. La marine française ne possède plus qu'une trentaine de bateaux. Malgré un effort considérable de construction navale dans tous les ports de l'Empire, la lutte sur mer n'est plus possible. La France est condamnée à n'être plus qu'une puissance continentale. Pour un temps, les mers appartiennent aux Anglais. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, trois livres » préparés par Emmanuel. C'est Yves Duteil qui nous accompagne en chanson. Nous écoutons un titre de 1977, extrait de l'album Tarentelle, « Prendre un enfant par la main ».
prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur. Prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie. Prendre un enfant contre soi,
écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire préparée par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter pour commencer Des vérités boiteuses d'Émile Bramy, c'est paru aux éditions Écriture. À la suite d'une dénonciation calomnieuse, Haï Victor Bramy est enlevé en pleine nuit. Dans l'appartement familial de Tunis, nous sommes en 1964. Il est retrouvé dans le sud du pays, 3 semaines de torture plus tard. Lui et sa famille décident alors de quitter leur terre natale, direction la France. 30 ans après, son fils, l'auteur, cherche à recoller les morceaux de cette histoire oubliée, celle des Juifs de Tunisie. Son livre, c'est son retour sur son enfance en utilisant les résultats de son enquête et ses propres souvenirs. Des vérités boiteuses d'Émile Bramy, c'est publié aux éditions Écriture. Le dimanche du souvenir de Darragh McKean aux éditions Bellefond. Le 8 novembre 1987, pendant le dimanche du souvenir commémorant l'armistice, le deuxième dimanche de novembre, un attentat de l'IRA fait 11 morts et 63 blessés dans la ville de Enniskillen. Deux adolescents, Simon et Brandan, rêvent de fuir cette Irlande dévastée. marquée par la violence. Violence qui va transformer les jeunes Irlandais en terroristes. L'un deviendra victime, l'autre bourreau. Mais tous deux sont en réalité victimes de la tragédie nord-irlandaise. 30 ans plus tard, cette histoire remonte dans les souvenirs de Simon lors d'une crise d'épilepsie à New York. Le dimanche du souvenir de Darragh McKinn s'est publié aux éditions Bellefond. L'homme transparent de Jeanne Ozas aux éditions Le Cherche Midi. Comment, lorsqu'on est un total inconnu, devenir l'homme le plus connu de France? Nous voici plongés dans la personnalité de l'assassin passionné de poésie et quelque peu extravagant du collaborateur René Bousquet. Il l'a tué pour obtenir la célébrité, certes fugace, mais réelle. Le 8 juin 1993, René Bousquet, ancien secrétaire général de la police de Vichy, organisateur de la rafle du Veldiv, est assassiné par Christian Didier à Paris. Aussitôt le crime perpétré, ce dernier convoque la presse et revendique crânement son geste. L'homme transparent de Jeanne Ozas s'est publié aux éditions du Cherche Midi. Et je rajoute exceptionnellement un quatrième livre à cette chronique, un livre tout à fait remarquable de Pierre Fesquet, Piaf, un cri vers Dieu. C'est sorti récemment aux éditions Salvator. À l'occasion du 60e anniversaire de la mort d'Édith Piaf, le livre de Pierre Fesquet, qui a côtoyé les compagnons de la chanson, nous interpelle à propos du rapport de la môme à la foi et à la spiritualité chrétienne. L'auteur évoque bien sûr la grande dévotion de la chanteuse envers Thérèse de Lisieux. Petite, Piaf perd la vue. Grâce à un miracle attribué à Sainte Thérèse, elle est guérie lors d'un pèlerinage à Lisieux. Pierre Fesquet montre comment Piaf exprime dans ses chansons une authentique quête de foi, de joie et d'amour. Elle donnait en privé de l'argent pour les restaurations d'églises et sauva par son chant un prêtre du suicide, lui rendant la foi. La vie de Piaf fut bien sûr marquée par de nombreux drames et beaucoup d'excès qui altérèrent sa santé, mais elle trouva toujours l'espérance dans la foi. Piaf, un cri vers Dieu, s'est signé Pierre Fesquet, s'est publié aux éditions Salvator. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui en a réalisé la première partie et à Lucas qui a pris le relais en cours d'émission. Nous allons nous séparer en chanson avec toujours Yves Duteil, un titre de 1976 dans l'album J'attends les Batignolles.
Quand je courais dans les rigoles, quand je mouillais mes godillots, quand j'allais encore à l'école et qu'il fallait se lever tôt, j'avais à peine ouvert la porte et vu la Méditerranée. J'étais déjà dans la mer morte, juste au pied du grand escalier, en attendant que quelqu'un sorte pour jaillir comme une fusée. Puis je descendais le grand fleuve qui partait de la rue de Lévis, qui passait par la rue Salneuve et se perdait dans l'infini. Alors au square des Batignolles, je passais le torrent à guet pour voir les pigeons qui s'envolent quand on court pour les attraper. Alors au square des Batignolles, je passais le torrent à guet pour voir les pigeons qui s'envolent quand on court pour les attraper. Sur le pont guettant les nuages, on respirait la folle odeur qui se dégageait au passage des locomotives à vapeur. Et au cœur de la fumée blanche, tout le reste disparaissait. On était dans une avalanche qui venait de nous avaler. On était dans une avalanche qui venait de nous avaler. J'étais un faiseur de miracles et tout le long de mon chemin, je balayais tous les obstacles d'un simple geste de la main, en regardant les feux quand même, mais simplement pour traverser. Sûr que c'est moi qui sans problème décidais de les faire passer. Sûr que c'est moi qui sans problème décidais de les faire passer. Je cours encore dans les rigoles, je veux encore me lever tôt, et je vais encore à l'école pour apprendre à chanter plus beau. Mais j'ai grandi jusqu'au nuage où je m'invente un univers bien plus tranquille et bien plus sage que ne l'est ce monde à l'envers. Mais j'ai grandi jusqu'au nuage où je m'invente un univers bien plus tranquille et bien plus sage que ne l'est ce monde à l'envers.
Thank you.